Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Chers auditeurs, deuxième interview de l'agence Gaëtan Engasser et associé, donc agence Engasser et associé. Bonjour Gaëtan.
Bonjour Myriam.
Alors je vais vous demander rapidement de présenter évidemment l'agence puisque c'est la deuxième interview et puis de nous donner un peu votre actu qui est énorme, formidable. Un petit peu le débrief sur le profil de l'agence.
Alors, c'est une agence que j'ai créée il y a une quinzaine d'années et aujourd'hui, on est une trentaine de collaborateurs. On développe un modèle assez entrepreneurial qui nous paraît être aujourd'hui ce vers quoi tendent les agences d'architecture. C'est-à-dire qu'on a, on a une structuration aujourd'hui avec des, ce que j'appelle des fonctions support, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des métiers liés, pas que des architectes. On a aujourd'hui une graphiste en interne, un chargé de communication, un DAF, donc qui s'occupe un peu des contrats, des négociations et des montages des équipes, un directeur commercial, un pôle imagerie, qu'on a une cellule numérique pour faire des images de synthèse, et également un illustrateur, et une fonction liée autour du BIM, de l'informatique. Donc on a quand même 6-7 métiers de gens qui ne sont pas formés dans les écoles d'architecture. Et on pense que ça participe aussi au rayonnement un peu et au développement de l'agence.
Voilà, est-ce que vous avez bureau d'études économistes intégrés ? Il me semble que l'économie est quand même au cœur de votre agence.
Tout à fait. On essaye d'intégrer certaines parties de l'ingénierie, notamment l'économie. On pense qu'aujourd'hui, en tout cas, les architectes doivent être forcément associés à ce volet-là.
Pour pas avoir un déshabillage de leur projet, c'est ça ?
Alors pour
pouvoir
pas
tenir un petit peu les coûts ?
Pour pouvoir tenir les coûts, ou en tout cas, comme il faut toujours les optimiser, savoir les optimiser de manière intelligente, et tenir les coûts, ça veut aussi dire rentrer dans une enveloppe qu'on nous donne, signer un appel d'offres avec une ou des entreprises dans les objectifs qu'on se fixe, et après les construire jusqu'au bout. Je pense qu'on est assez connu pour tenir ces trois un peu pilier dans les moments du projet.
Ce qui est rare pour les archis, on est d'accord.
Ce qui est compliqué à tenir. Voilà, donc on est un peu structuré sur ce modèle. Et donc, c'est à peu près une vingtaine de projets en parallèle qu'on développe aujourd'hui.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes une agence considérée comme fiable en termes d'économie et où on a une adéquation entre l'image architecturale qui est vendue ou qui est développée lors d'un concours et puis ce que le maître d'ouvrage va inaugurer quelques années après ?
Oui, je pense que c'est effectivement un de nos principaux atouts commerciaux. On arrive à concilier dans l'expression et la sensibilité du dessin qu'on se donne une image qu'on tient déjà jusqu'au bout du projet. J'ai un exercice que j'aime bien, moi, sur les sites. On comparait le premier dessin, qui est un peu fulgurant, la première perspective qui fige la conception et la photo du photographe à la fin. Et c'est vrai que s'il y a un fil qui relie trois documents, c'est que c'est réussi.
Ouais.
Et effectivement, on a beaucoup de retours de clients parce qu'on sait tenir aussi une enveloppe, un budget dans un dessin qu'on se fixe.
Alors, je vois qu'il y a pas mal de projets en cours, donc sans faire la liste, etc. Donc, vous avez 7 concours rendus donc anti-Covid ou post-Covid rapide, sur lesquels vous attendez des nouvelles. Est-ce que aujourd'hui, vous avez l'impression que ces concours-là vont être décalés, liés aux élections? Qu'est-ce qui se passe par rapport, effectivement, à la fois à l'actu post-Covid et aussi aux élections municipales qui se sont récentes.
Alors, j'en ai pas parlé, mais on a une production aussi qui est assez diversifiée au bureau. Depuis le début, on fait principalement des équipements publics, beaucoup des gymnases, des groupes scolaires, 300-400 logements par an, donc beaucoup de la commande privée depuis un certain temps, mais aussi pour des OPHLM, et de manière plus ponctuelle, des bureaux, d'équipements culturels de temps en temps. Donc les différentes typologies de projets et les différentes typologies de maîtrise d'ouvrage n'ont pas eu du tout les mêmes répondants pendant cette période de Covid. Et c'est vrai que l'une des complications pendant ou post-Covid, Et en plus, avec les élections municipales, c'est de gérer des décalages de projets, des projets qui s'arrêtent suite à un changement de municipalité. Et on a effectivement eu beaucoup, beaucoup de décalages dans ces derniers mois, surtout sur les dépôts aussi de permis. Ensuite, on a effectivement eu la chance de gagner, de remporter pas mal de concours juste avant la période Covid. Donc on fait partie des agences un peu privilégiées qui ont plus de facilité à passer le pont, on va dire. On a gagné un concours qu'on a fait pendant la période Covid, qui est un beau gymnase à Vincennes.
Oui, bravo.
S'inscrire dans le cadre des Jeux Olympiques. On travaille sur deux collèges, à Courneuve et à Bobigny. Et voilà, on est aujourd'hui en recherche en 2021, on se fixe comme objectif d'atteindre des projets qu'on appelle des grands projets, des projets un peu plus, avec des budgets un peu plus conséquents pour l'agence.
C'est ça, entre 20 et 50 millions d'euros.
Voilà, qui sont encore pas toujours accessibles à notre tranche d'âge,
à votre taille d'agence.
Et à notre taille d'agence.
Alors comment on fait justement ? On s'associe avec d'autres agences, avec des agences qui ont des chiffres d'affaires plus importants, que ce soit à l'étranger ou en France. Vous pouvez nous expliquer d'une manière un peu plus, pragmatique, comment ça se fait ? Parce que vous savez, on sait très bien que les architectes français ont du mal à partager.
Tout à fait. Dans notre stratégie à nous, il y a plusieurs axes de développement. Le premier qui est sur des projets en MGP ou en conception-réalisation où on a un partenariat avec des entreprises. Et comme on vous le disait, comme on travaille beaucoup cette question de l'économie, on est assez coopté par les entreprises qui savent qu'on a ce savoir-faire aussi de gestion de maîtrise d'œuvre, d'exécution et de chantier. Donc une des pistes, c'est de trouver des bons partenariats avec des entreprises pour accéder à cette commande. Une deuxième, c'est effectivement de s'associer malheureusement, encore beaucoup avec des agences à l'international. Il y a très peu d'agences en France qui sont structurées sur des échelles de 150-200 architectes. Donc on a des partenariats en ce moment avec Henning Larsen, avec des gens de Copenhague ou effectivement des pays du Nord. Et le dernier axe qui me paraît être celui que j'aimerais développer le plus, c'est de le faire en co-développement avec des agences parisiennes, françaises. Parce que je pense que c'est un marché qui va nous échapper sinon, et c'est dommage que les...
C'est-à-dire pour ne pas se faire prendre la commande par les équipes anglo-saxonnes qui ont peut-être un peu plus de rigueur, qui ont cette réputation d'être carrée, vous voulez garder en interne, en France, avec des associations ponctuelles, avec des agences françaises, ce savoir-faire latino-sensitif.
Tout à fait. Je pense qu'il faut qu'on se regroupe encore plus aujourd'hui parce que c'est aussi une taille d'agence un projet à 50 millions, il faut être structuré pour le suivre.
Ouais.
Voilà. Et donc, il faut travailler à égo un peu retranché, on va dire, des structurations d'agences un peu parallèles et communes qui nous permettront de répondre à ce type de projet. Avec des équipes locales et françaises, et pas c'est un marché qu'on va perdre sinon, et je trouve que c'est dommage.
Alors, est-ce que ça veut dire que l'architecture et l'aménagement de demain, que les agences doivent capter cette idée d'humilité? Hein, je le dis sans esprit péjoratif, bien évidemment. Alors, comment vous faites, vous, à l'agence, pour pouvoir à la fois garder l'image ? Parce qu'on sait très bien que les élus, souvent, veulent cette image de la reconnaissance, hein, donc de la publication, etc. Et puis, avoir cet esprit un peu moins égocentrique ou égocentré.
Je ferai une double réponse sur ce point-là. Je pense qu'il y a eu effectivement quelques contre-exemples sur des projets... majeur, où il y a parfois un côté un peu star qui fait les projets images, les projets signatures. Il y en a besoin aussi, mais ça va parfois vers des dérives financières qui sont des contre-exemples aussi à cette maîtrise dont tu parles. Ensuite, je pense que nos ateliers de recherche, nous à l'agence, ça passe beaucoup aussi par les matériaux, travailler avec les usines et les fabricants pour avoir certains matériaux à des prix de sortie qui sont très maîtrisés.
C'est-à-dire quoi ? Vous négociez les prix de
sortie ? On négocie, voilà, en fonction des volumes de projets qu'on a et de l'endroit où on va chercher des matériaux, des prix de sortie qui permettent aux entreprises par exemple, de faire un bâtiment quand même en briques ou en plaquettes et pas en enduit parce qu'on a une plaquette qui coûte 10 ou 12 euros du mètre carré. Donc, c'est des négociations aussi avec des fabricants, ça va jusque-là. Et je pense que, oui, après, c'est aussi tout simplement une manière de savoir décrire... De savoir décrire un projet, de savoir négocier aussi le temps de l'appel d'offres, et un moment qui est hyper important dans notre agence, qui ne se voit pas forcément aux yeux des maîtres d'ouvrage ou des clients, mais on reçoit toutes les entreprises à l'agence, on travaille très dans le détail pour qu'il y ait vraiment une compréhension du dossier et des alternatives, et on en trouve toujours. Et ça, c'est un moment crucial pour nous, pour réussir en fait la maîtrise des budgets et de la technique du projet.
Donc ça, c'est l'exemple qu'on a assez souvent dans les agences anglo-saxonnes. Est-ce que vous travaillez aussi à l'agence sur le cradle to cradle, c'est-à-dire la réutilisation, la réutilisation des matériaux, la recherche sur la reprise en compte de matériaux existants sur un site ?
On commence à le faire. On n'est pas encore expert là-dessus, pour être honnête, mais je pense que c'est la thématique. De demain, j'allais dire, et quand est-ce qu'on s'y met ? Donc, il y a plusieurs sociétés qui sont spécialisées aujourd'hui dans le réemploi et qui nous aident, en fait, à le mettre en œuvre. C'est très compliqué encore. On est sur un système de normes en France qui est souvent stupide et pas fondé. Je pense notamment à tout ce qui est biosourcé, qui sont des règles... éthiques et que je trouve bonnes, mais qui aujourd'hui sont très compliquées à mettre en œuvre. Par exemple, il n'y a aucun isolant biosourcé étiqueté au CSTB et c'est bloquant alors qu'il en existe une flopée. Donc il faut qu'on ait des carcans qui nous permettent d'aller au-delà de ces règlements et de pouvoir vraiment faire du réemploi. Souvent, quand on fait du réemploi, ça ne compte pas dans les taux d'éléments biosourcés, alors que qu'est-ce qui est plus biosourcé qu'un matériau qu'on réutilise ?
Alors, à cet effet, je vous incite à écouter l'interview que j'ai faite de Cardam, puisque Cardam est, je dirais, mon sponsor, mon partenaire, on va dire, sur l'émission. Et on a fait une interview extrêmement intéressante, justement, sur le Cradle to Cradle. Et je pense que ça fera l'objet de pas mal de réflexions dans l'avenir et peut-être interviewer justement des entreprises qui travaillent sur ces thématiques-là. Merci Gaëtan, merci d'être venu pour ces premières interviews de rentrée post-Covid. Et merci chers auditeurs.
Merci à vous.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.